Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous rappelle que nous nous préparons à nous consacrer ou à renouveler notre consécration à la Très Sainte Vierge le jour de Noël. Je ne reviendrai pas sur l'importance de cette consécration, surtout en nos jours difficiles. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous demande de nous préparer en quatre périodes. La première période, c'était nous vider du monde. La deuxième, nous connaître nous-mêmes. C'est ce dont nous parlons actuellement. Nous avons vu dimanche dernier à quoi nous sommes destinés. Une destinée très haute, temple du Saint-Esprit, intimité avec Dieu, intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ce beau dessein de Dieu, ce que Dieu voulait, a été cassé par le péché originel, et il y a des suites au péché originel. Tout d'abord, nous ne naissons pas comme Dieu l'avait voulu au début, nous ne naissons pas avec la grâce, nous naissons sous l'emprise du démon, et il faut le baptême pour nous délivrer du démon et nous rendre à Jésus-Christ. Et deuxièmement, il y a ces blessures qui restent, qui demeurent dans notre pauvre nature. Je voudrais bien vous faire observer que si nous prenons conscience de ces blessures, et Mgr Lefebvre nous en parlait très souvent, il nous demandait d'insister sur le sujet. Effectivement, je viens de me plonger hier pour préparer une conférence dans les textes de Vatican II. On est dans un monde sans péché, avec Vatican II, sans péché, sans mal, sans problème. Enfin, il y a des problèmes, mais des problèmes économiques. Mais il n'y a pas de problème moral, il n'y a pas de péché, l'homme est bon. Oh, il y a quelques hommes qui ne sont pas chrétiens, mais enfin quand même, ils sont quand même orientés vers Dieu, vous voyez. Non, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Nous sommes profondément blessés, il faut le reconnaître. Et pourquoi le reconnaître? Parce que c'est dans le plan de Dieu. Le but ne change pas. Dieu veut toujours que nous soyons temple du Saint-Esprit, toujours que nous vivions en intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ également. Il veut toujours que nous soyons les compagnons des saints et des anges au ciel. Mais les conditions pour gagner le ciel vont être différentes. Ce sont des conditions de lutte. Pourquoi des conditions de lutte? Principalement pour éviter que l'homme, pour éviter l'orgueil de l'homme, que l'homme se croit pour plus qu'il n'est. Et justement, Vatican II, c'est la libération de tout l'orgueil de l'homme. L'homme n'a plus besoin de lutter. Les quatre blessures. Premièrement, dans l'intelligence. L'intelligence d'Adam avait la science, ça n'était pas transmissible, c'était uniquement parce qu'il était le premier. Mais surtout, l'intelligence d'Adam avait une grande pénétration des choses de Dieu, de la providence, de ce que Dieu a fait dans la nature. L'intelligence d'Adam voyait tout, un peu comme notre Seigneur le voit. Cette intelligence a été blessée, c'est-à-dire que maintenant elle est sujette à l'erreur, et l'erreur principale, mes bien chers frères, c'est l'orgueil. L'orgueil qui consiste à croire que nous sommes plus que ce que nous sommes, que nous pouvons agir sans Dieu, voire même, comme enseigne Vatican II, que Dieu a besoin de nous, que Dieu a besoin des hommes. Cet orgueil est nourri aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, mais c'est comme ça, il est nourri par les découvertes modernes. Parce que justement, l'homme est dans l'illusion. il se persuade que tous les progrès modernes sont de véritables progrès, alors que ce ne sont que des progrès matériels. Il se persuade que parce que, en appuyant sur un bouton, il se trouve de l'autre côté de la Lune, qu'il est devenu plus fort, plus puissant, plus intelligent et qu'il peut se passer de Dieu. Ne riez pas trop de ma comparaison, mes bien chers frères. Parce que si vous, les adultes qui m'écoutez, vous avez encore été formés selon le mode ancien. C'est-à-dire qu'à votre époque, même en appuyant sur un bouton, on ne se trouvait pas de l'autre côté de la Lune. Alors on allait à bicyclette en classe ou acheter le pain, par exemple, ne serait-ce que cela. Il fallait faire un effort. Les jeunes aujourd'hui, et ceci depuis maintenant plus de 20 ans, puisque l'explosion d'Internet date de l'an 2000, les jeunes aujourd'hui ne se rendent plus compte. Ils ne se rendent plus compte que les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts. Pensez donc sur une tablette, sur un ordinateur, sur leur téléphone, là, ils sont tous avec des téléphones. Il n'y a même plus de boutons, c'est de la rigolade, les boutons. On appuie sur l'écran. Et cela a une conséquence, hein. C'est qu'on se croit pour plus fort qu'on est, et on croit qu'on peut se passer de Dieu. On s'habitue à se passer de Dieu. Il est évident que l'orgueil est le vice qui atteint le plus l'élite, et il est évident que l'orgueil est le vice qui guette le plus les chrétiens qui ont réagi dans le monde et qui peuvent se persuader qu'ils vont sauver l'Église, que l'Église a besoin d'eux, etc. Cette blessure de l'intelligence vient d'une soumission exagérée au sens, à la sensibilité. C'est-à-dire que pour voir les choses de Dieu, il faut se sortir des choses du monde. C'est ce que tous les moines ont toujours fait, de se couper du monde pour être plus avec Dieu. La blessure de l'intelligence fait exactement l'inverse. Elle nous rapproche des choses du monde et occulte les réalités divines. Le remède, c'est l'humilité et la contemplation de Dieu, qui vont ensemble d'ailleurs. La contemplation de Dieu va nous faire prendre conscience de la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout. Nous en avons déjà parlé. Monseigneur Lefebvre y revenait souvent. Dieu est l'être indépendant qui n'a besoin de rien ni de personne. Et nous sommes par définition des êtres dépendants. La définition de la créature, c'est qu'elle n'est pas toute-puissante, elle est dépendante de Dieu, elle a besoin de Dieu, et pour tout, hein, en tout. Je vais pas refaire la démonstration que je vous ai déjà faite. L'humilité, qui consiste pas, je vous l'ai déjà dit, mais il faut y revenir, à se prendre pour un nul, mais à être absolument persuadé que le bien qui est en nous vient de Dieu, et que nous, si nous ne faisons pas attention, nous ne sommes capables que de gâcher les biens de Dieu. Nous verrons que cette humilité, cette contemplation de Dieu nous sont données par la Sainte Vierge, n'anticipons pas. Deuxième blessure dans la volonté, c'est la malice. La malice, c'est-à-dire que la volonté qui normalement est tournée vers le bien va être maintenant détournée du bien. La cause, c'est évidemment, comme pour le reste, la soumission à la sensibilité. Parce que l'homme, par le péché, a été déchu de sa dignité qui le rendait semblable aux anges, et est devenu un peu semblable aux animaux. Ce sont les animaux qui sont pris par leur sensibilité. Et l'homme, par le péché, se ravale au rang des animaux. Alors il ne comprend plus les choses élevées, et donc il ne les veut plus, et il ne les aime plus non plus. Il ne les aime plus parce que cela contredit ses caprices, et puis parce que c'est trop élevé pour lui. Faisons bien attention, mes bien chers frères, à cette blessure, j'allais dire par omission. On voit toujours dans la malice le fait d'aimer le mal. Mais il y a aussi le fait de ne plus aimer le bien. Et c'est très, très grave de ne plus aimer le bien. Parce que le bien est le moteur de notre vie. Ne plus aimer le bien, c'est ne plus découvrir la richesse de la vie chrétienne au-delà de la croix. Il n'y a que ceux qui aiment le bien qui peuvent aimer Dieu au-delà de la croix. Les autres s'arrêtent à la croix et se découragent. Le bien que nous devons aimer, pour lequel nous sommes faits, c'est évidemment un bien qui nous dépasse. C'est toute la grandeur de l'homme à laquelle il est appelé. Le vice de la malice consiste à ne plus nous mettre au service du bien qui nous dépasse, c'est-à-dire de Dieu, du bien commun, au service de la société. J'ai connu, je vous l'ai dit, mais il faut y revenir, j'ai connu dans ma jeunesse des héros qui ont pratiquement tout perdu pour sauver, c'était l'Indochine, c'était l'Algérie, c'était le prochain, sauver la chrétienté, se mettant au service de la chrétienté. Je vous recommande le livre du colonel Leroy, Pierre Leroy, je crois, Le fils de la rizière, qui vous montrera ce que c'est que de se mettre au service d'une chrétienté, de s'oublier soi-même pour se mettre au service d'une chrétienté. S'il n'y avait que lui, vous avez tous les livres sur les missionnaires. Ce service du bien qui nous dépasse, c'est l'idéal de tous les missionnaires. Bref, de tous les prêtres, de tous les hommes bien nés, de tous ceux qui veulent vraiment que le prochain, la société tout entière, vive dans la vie de Dieu. Ça a été la grande préoccupation de Mgr Lefebvre. Et c'est ce qu'on voit dans tous les ralliements, que ce soit celui de Léon XIII à la République, que ce soit le ralliement des libéraux, que ce soit le ralliement de 95% des catholiques au monde à travers le Concile Vatican II, que ce soit le ralliement de 95% des fidèles de la Fraternité Saint-Pie-X à Vatican II également, on peut le dire comme ça. Tous ces ralliements sont dus au fait qu'on cherche son bien particulier aux dépens du bien commun, qu'on cherche à vivre à l'aise dans un monde qui devrait être un monde de lutte au service de la chrétienté. Et pour vivre à l'aise dans ce monde-ci, il faut évidemment abandonner le service de la chrétienté. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Le remède à la malice dans la volonté, ce sont les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde qui nous font prendre conscience de la misère d'autrui, nous font prendre en même temps conscience de notre propre misère, et nous font prendre conscience du rayonnement de la charité, du rayonnement de notre Seigneur Jésus-Christ qui élève les âmes. Marie est appelée mère de miséricorde, ce n'est pas seulement la miséricorde qu'elle exerce envers nous, c'est la formation qu'elle nous donne pour que nous ayons nous-mêmes un cœur miséricordieux. La troisième blessure est dans la force. Nous avons quatre facultés, mes bien chers frères, qui sont concernées par les blessures. Deux dans l'âme, dans l'esprit, c'est l'intelligence et la volonté, il n'y en a pas d'autres. Et puis deux dans ce qui fait le lien entre notre corps et notre âme, c'est la force et la concupiscence, le désir. La force est blessée, c'est la faiblesse. Je vous en ai parlé en parlant des vertus. Je vous ai dit que la force est plus importante que le désir, Pourquoi? Parce qu'elle est liée à l'idéal. C'est elle qui nous met au service de l'idéal, c'est la force qui fait qu'on n'a pas peur des exigences de l'idéal. Et par conséquent, la blessure de la force, qui s'appelle la faiblesse, mais on pourrait l'appeler la lâcheté, la pusillanimité. Pusillanimité, ça veut dire mesquinerie. Et toutes ces blessures de la force, un esprit mesquin, un esprit pusillanime, un esprit faible, un esprit qui perd son enthousiasme, son idéal. C'est très grave et c'est très répandu aujourd'hui. Tout se tient, bien entendu. Le remède, c'est le désir du martyr. Je viens de relire la vie du petit Mexicain José Luis. Voilà un garçon qui est entré dans la croisade mexicaine, pour être martyr. Il faut nous rendre compte que l'idéal du martyr est un idéal qui a poussé Sainte Thérèse d'Avila à chercher le martyr, même si elle n'a pas pu l'obtenir, Saint François d'Assise à chercher le martyr en allant jusqu'en Égypte, même s'il n'a pas pu l'obtenir, José Luis a cherché le martyr et il l'a obtenu. Celui qui n'est pas capable de voir la grandeur du martyr, c'est-à-dire la grandeur de la mort de notre Seigneur sur la croix, la grandeur de la consécration totale à Jésus-Christ, celui qui n'a pas vu ça, ne peut rien faire. D'où le désir du martyr, et si Dieu ne donne pas la grâce du martyr, alors au moins un don de soi total, complet, avec toutes ses facultés, au service de Dieu et de la chrétienté. Enfin, il y a dans le désir une blessure qui est la blessure de la concupiscence. C'est l'attrait des sens, la soumission à la sensibilité. C'est ce qui est la marque des animaux. Le remède, c'est l'ascèse et la pauvreté. Et nous avons vu, mes bien chers frères, lorsque nous avons étudié le monde et la fuite du monde, que très souvent, bien que cette blessure ne soit pas la plus grave, c'est celle par laquelle le mal entre le plus facilement. Parce que nous désirons les biens de ce monde, et dès que nous avons désiré les biens du monde, cela très vite nourrit l'orgueil qui est la principale des blessures. Le remède donc à la concupiscence, c'est l'ascèse, la pauvreté, le jeûne, la pénitence, mais la principale des pénitences, c'est le jeûne. Le remède général à tout cela, c'est de tout abandonner entre les mains de Marie. Nous le verrons dimanche prochain, qui sera le dimanche avant Noël. Nous verrons comment on se consacre à la Sainte Vierge, surtout ce qu'on lui donne. Il faut nous dépouiller du vieil homme, il faut nous dépouiller de notre chair blessée, ou des blessures de notre chair, et pour cela, nous mettre totalement entre les mains de Marie, qui seule, parce que Dieu l'a voulu ainsi, sera capable de nous guérir, mais faites bien attention, mes bien chers frères, il ne s'agit pas seulement de voir la Sainte Vierge par rapport à notre faiblesse, de la voir comme celle qui nous guérit. Il faut lui demander de nous guérir, mais sans oublier le but qui est l'union à Dieu et qu'elle restaure en nous la vie de son Fils. À l'approche de Noël, il est très important de contempler déjà la crèche, de commencer déjà à contempler notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'homme parfait qui va restaurer notre vie chrétienne. Et c'est cela qui va nous attirer à faire l'effort de guérir nos blessures, parce que c'est un effort qui, évidemment, n'est pas facile. Dieu a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et on n'a jamais dit que guérir nos blessures était une œuvre facile. Mais avec la Très Sainte Vierge, cela devient une œuvre enthousiasmante, et il est possible de s'enthousiasmer même pour quelque chose de difficile. Notre-Dame, Mère de Miséricorde, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.